Bonjour, nous sommes la classe de 4e 6 du collège Saint-François d'Assise. Aujourd'hui, nous allons interviewer M. Laguna, qui est un professeur d'espagnol, pompier volontaire, écrivain, professeur de sport, créateur de jeux et bien d'autres encore. Nous allons l'interviewer dans le studio de l'InfoRC. Bonjour M. Laguna.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici.
Quels sont les différents métiers que vous avez exercés ?
Alors, il a un bon paquet parce que j'ai commencé à travailler pour me payer mes études, pour partir en Erasmus en Italie. Alors, j'ai commencé pour être livreur de pizza, garçon de café, j'ai bossé sur un bar aussi, responsable de sécurité dans son foire agricole, des machineries agricoles. Après, j'ai fait des traductions, des cours particuliers, prof, voilà, pas mal de trucs.
Quel métier avez-vous le plus apprécié et pourquoi ?
Bon, on va dire toujours le dernier. Alors, être prof, pour moi, c'était une belle découverte, un grand plaisir. J'ai toujours voulu être prof, depuis que j'ai vu le film de, je sais pas comment on dit en français, le club de los poetas muertos, le club des poètes disparus, c'est
ça? Le cercle des poètes disparus.
Merci. Alors, j'ai trouvé très intéressant cette idée de pouvoir travailler avec les ados et les jeunes, hein, ça nous maintient jeunes, quoi. C'est très stimulant.
Quelles études avez-vous faites ?
Ça aussi, c'est un peu particulier. Moi, je suis ingénieur chimiste et je suis spécialisé en sécurité industrielle. Et voilà, mes études de base sont scientifiques. Même si j'ai travaillé beaucoup dans la littérature, et finalement, je suis prof de langue, à la base, je suis un scientifique.
Vous faites beaucoup de métiers. Comment faites-vous pour vous organiser ?
Je pense qu'on fait un peu comme tout le monde, on fait comme on peut. Alors oui, ça fait beaucoup. Alors j'ai remarqué que je suis devenu beaucoup plus efficace en tant que personne depuis que j'ai 5 enfants. Alors une fois on a 5 enfants, on ne peut pas traîner trop. Et il faut bien profiter chaque moment. Alors on s'habille plus rapidement, on cuisine plus rapidement, on fait tout un peu plus rapidement. Mais ça s'est fait quand même.
Avez-vous une anecdote marquante dans l'un de vos métiers ?
Ça, c'est la question la plus compliquée. Alors, heureusement, il y avait les scripts. Hein. Et, alors, je vais vous parler de mon métier d'écrivain. Et à un moment donné, j'écris des romans, des fantômes, des trucs un peu d'épouvante et tout. Et à un moment donné, j'étais président de l'Association espagnole d'écrivains d'horreur. Et c'était un moment dans lequel j'avais gagné quelques prix. J'étais tout content. Un de mes livres, il avait très bien marché. Et je suis allé à Madrid invité pour des journées de littérature. C'était la Semana Gótica, c'était autour des trucs gothiques. Et on était avec des copains écrivains dans un bar, on était en train de prendre des bières. Et à un moment donné, on voit qu'il y a un groupe de dames dans la table à côté qui nous regardent beaucoup. Et il y a une qui se lève, il vient vers moi et devant tout le monde, il me dit « Monsieur, désolé de vous interrompre ». Et vraiment, c'est vous, hein? C'est vous, et Pablo Iglesias. Alors, moi, je croyais qu'il me connaissait en tant qu'écrivain, et pas du tout. Il m'avait pris pour un politicien qui était très connu à l'époque. Alors voilà, mon anecdote. Mon moment de gloire, il a duré 3 secondes.
D'où vient votre passion pour le kendo ?
Ça, c'est aussi un peu l'hasard. Alors, quand j'y vivais à Paris, j'y avais découvert l'escrime. Il faisait l'épée et j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. C'est un sport très joli, très dynamique. Et en plus, il a toute une histoire derrière. Mais malheureusement, quand on a déménagé à Metz, il n'y avait pas de club d'escrime dans le centre-ville. Alors, il fallait aller dans l'autoroute. Et moi, il n'y avait pas de voiture. Et aller en vélo dans l'autoroute, c'est un peu dangereux. Alors j'ai regardé un peu les disciplines qu'il y avait là et j'ai découvert qu'il avait le kendo. Je n'avais jamais entendu parler du kendo. Et je me suis dit quand même, c'est l'escrime oriental, mais c'est l'escrime, alors ça ne peut pas être tellement différent. Et oui, c'est très différent, ça n'a rien à voir, mais ça m'a passionné tout de suite. Alors après un premier an pour découvrir la discipline, j'ai trouvé que c'était super et ça m'a passionné tellement qu'en ce moment, c'est ça qui est fait, beaucoup plus que l'escrime occidental.
Êtes-vous professeur bénévole dans le kendo ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une histoire un peu particulière aussi. Quand j'étais à Metz, mon 3e année de kendo, J'ai eu la possibilité de passer mon examen pour avoir la ceinture noire. Je venais d'avoir ma ceinture noire, qu'on a décidé qu'on déménageait en Ardèche. Et j'ai regardé par Internet, c'est un merveilleux outil, et j'ai vu qu'il n'avait pas de club de kendo en Ardèche. Alors j'ai parlé avec mon sensei, il l'expliquait, et il m'a dit bah, toi qui as créé ton club. J'ai dit, mais bah, c'est une blague, hein. Je viens de passer ma ceinture noire, il n'y a pas le niveau. Il m'a dit oui, c'est ça, on va arrêter. Alors, j'ai passé ma formation des profs de kendo. Alors, je suis monté à Paris pour avoir la formation là-bas. C'était assez impressionnant parce qu'on était avec les membres de l'équipe de France, parce que le kendo, c'est très minoritaire. Alors, il avait une dame, pour exemple, qui avait fait 40 ans de kendo. C'est pas qu'il avait 40 ans, elle avait fait 40 ans de kendo. Alors, vous pouvez imaginer le niveau qu'il avait. Et là, il y avait deux possibilités, hein. Soit le diplôme bénévole, soit le diplôme professionnel. Moi, le professionnel, ça ne m'intéressait pas énormément parce que le kendo, c'est très minoritaire, alors c'est rare qu'on se fait payer. Alors, j'ai fait le kendo d'une façon bénévole. Et mon diplôme, c'est pour faire des profs de kendo bénévole. Et en soi, je trouve que c'est très bien parce que le kendo, c'est transmettre un certain nombre de valeurs. Faire l'argent, ça rentre pas dans ces valeurs. Et on aime bien transmettre ses connaissances de soi-même. Voilà. Alors, bénévole.
En quoi consiste le kendo?
Ça, c'est une bonne question aussi. Et c'est bien parce que le kendo, il n'est pas très connu. Alors, en résumant beaucoup, on pourrait dire que c'est l'art martial du sabre japonais. Alors, ken, hein, ce n'est pas le mari de la Barbie, c'est le sabre en japonais. Et do, ça veut dire chemin. Alors, c'est le chemin du samouraï. C'est une reprise, on va dire, du Bushido. Alors, tout ça vient de qu'au 19e siècle, au Japon, ils ont interdit à les samouraïs de porter ces épées. C'était interdit, c'était un privilège qu'ils avaient de l'époque féodale. Et ils ont décidé que c'était interdit pour une question de sécurité nationale et tout. Et alors, les samouraïs, ils ont dû trouver des disciplines pour continuer à garder ces connaissances, mais en les faisant différemment. Alors, ils ont né plusieurs disciplines, l'iaido, le kenjutsu et le kendo. Et le kendo en particulier, on travaille avec des sabres en bambou et des sabres en bois, et ça nous permet de travailler des vrais combats, parce qu'on est protégé en armure, alors on peut vraiment se frapper, on peut vraiment couper. Alors il a tout un côté, on va dire, physique, qui travaille l'équilibre, la respiration, la distance, l'opportunité. Et après, il a tout un côté un peu plus spirituel, on va dire, dans lequel on essaie d'arriver à la maîtrise de nous-mêmes, de nos émotions, le respect à la personne qui travaille avec nous. Parce que le kendo, ce n'est pas un sport, c'est un art martial. On se frappe vraiment. Alors, c'est une question de générosité aussi. Et voilà. Alors, il a, on va dire, les deux côtés. Et c'est un peu l'héritier des connaissances des samouraïs.
Faites-vous des compétitions? Et si oui, avez-vous déjà remporté un titre?
Alors, on fait des petites compétitions dans le club avant les vacances. C'est ça qu'on appelle le kendo apéro. Alors, on fait une petite compétition entre nous. Et jusqu'à l'instant, il a gagné tout le temps parce qu'évidemment, il était le sensei, il était le plus gradé, c'était facile. Et là, il y a un troisième dan qui est débarqué à Lusas, alors il a arrêté de gagner. C'est très bien. Et la seule compétition officielle que j'ai faite, c'était la Coupe des Alpes l'année dernière à Chambéry. Et c'était une super expérience parce que le kendo, on travaille contre nous-mêmes. Alors, il faut arriver à se dépasser. Et j'étais dans l'équipe Ronin. Un Ronin, dans la tradition japonaise, c'était un samouraï qui avait plus de seigneurs. Alors, c'est un espèce de mercenaire, une espèce de vagabonde qui a pas de seigneurs. Alors, il va tout seul. Et on était intégré dans des équipes qui lui manquaient des membres dans l'équipe. Alors, il a eu une équipe qui était très généreuse. Il nous a adoptés, à notre collègue de mon club et à moi. Et on a fait la compétition. Et c'était super, et on a fait des très jolis combats, et je suis même pas arrivé à faire un seul point, mais c'était très stimulant, et ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon kendo.
Quelle formation pour devenir sapeur-pompier?
Alors, pour être sapeur-pompier, il faut, et ça il vous anime à tout le monde à essayer de les faire parce qu'on manque de monde, il faut faire des épreuves physiques au début pour voir si on est adapté, quelques épreuves un peu pour voir notre état d'esprit, alors des trucs autour de la claustrophobie, vertige, etc. Et une fois on voit qu'on est valable, on va dire, pour se mettre dans des situations un peu de stress et de danger, on est formé en premier secours. On voit pas mal de premiers secours, des secourismes un peu comme vous voyez au collège. Après, on a toute une formation pour être équipier, le brancardage, comment on gère une ambulance, un VSAV, des trucs d'incendie. Et à partir de là, on peut commencer à rentrer dans l'action. Une fois on a maîtrisé soit la côté sanitaire, parce que maintenant on a les deux possibilités, on peut faire sapeur-pompier que pour la côté secours à la personne, secours à la victime, on peut faire aussi la côté incendie. Une fois on a cette formation, on peut commencer à faire des interventions. Et vous verrez, c'est super intéressant, c'est super valorisant, parce qu'on apprend beaucoup de choses et ça donne un certain sens à notre engagement dans la société. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner avec vos chefs de centre dans les différents villages.
Partez-vous souvent en intervention en tant que pompier ?
Alors, moi je suis dans une toute petite caserne à Lussas. Alors, heureusement, il faut le dire, on ne part pas souvent. Ça veut dire que les voisins, ils vont bien. Et alors, quand on est dans la garde chez nous, on ne part pas souvent. De temps en temps, on part dans des autres secteurs. On descend à Aubenas de temps en temps. On va beaucoup à Villeneuve pour travailler avec les autres casernes. Et malheureusement, cet été, on a fait beaucoup d'interventions. On a eu un très gros incendie à Lussas. Et alors, oui, cet été, moi, j'ai explosé mon dossier, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interventions. Et c'est un peu paradoxal. En tant que pompier, on voudrait faire beaucoup d'interventions parce que ça voudrait dire qu'on aide à beaucoup de personnes. Et en même temps, on ne veut pas faire des interventions parce que ça veut dire qu'il y a des personnes en détresse. Alors, idéalement, on aurait plus de pompiers, comme ça on sortirait moins et les personnes seraient tous beaucoup mieux. Mais je pense que ce n'est pas tellement important le nombre qu'on fait, mais les faire bien.
Par rapport aux pompiers, pourquoi les traqueurs se sont arrêtés de voler ?
Ça, il faudra demander à quelqu'un un peu plus gradé que moi, j'ai aucune idée. Alors, moi, j'ai entendu que tous les moyens aériens qu'on a, ils vont être changés. Parce que par rapport à les besoins qu'on a maintenant avec le changement climatique, les conditions de sécheresse, on est un peu à court. J'ai entendu parler d'un projet européen dont ils vont reconvertir des avions de l'armée pour faire beaucoup de largages un peu plus précis et plus importants. Mais honnêtement, il n'y a aucune idée. Et là, il faut aller à les vraies sources. Là, comme toujours, il faut parler avec les gradés, au moins avec quelqu'un qui soit pilote, comme Claude à Lussas.
Quel type de livre écrivez-vous ?
C'est des sortes thématiques. Hein. Alors, mes livres, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le fantastique. Et j'aime beaucoup les histoires d'horreur. C'était quelque chose qui inquiétait beaucoup à ma mère quand j'étais au lycée. Elle me disait, Marouane, est-ce que tout va bien ? Pourquoi tu écris des trucs tellement horribles ? Mais j'aime beaucoup les histoires des fantômes, des vampires, les trucs inquiétants, les choses qu'on ne comprend pas, les environnements un peu lugubres, les cimetières, les greniers, les caves, hein, voilà. Alors, j'écris un peu de tout, j'écris aussi des trucs sociaux. J'ai gagné quelques prix de nouvelles historiques, mais c'est surtout la côté épouvante, horreur qui m'attire.
Combien de livres avez-vous écrit ?
Alors, les livres, c'est un peu difficile à mesurer. Romans, j'ai dû écrire 18-20 romans. Et nouvelles, j'ai dû écrire, si je ne me trompe pas, il y a une petite Excel avec les données, je pense qu'il était autour des 400-500 nouvelles. Alors vu que dans un livre, normalement, on met 13-15 nouvelles, ouais, si on dit en livre, je ne sais pas, j'ai écrit peut-être 60-70 livres. Après, il faut faire du volume pour arriver à maîtriser quelque chose. Il y avait un copain écrivain, un très bon écrivain, Emilio Buesso, qu'il nous parlait de la théorie des 1000 heures de vol. Alors on dit que les pilotes d'avion, pour les laisser piloter un avion, il faut qu'ils fassent au moins 1000 heures de vol. Il faut être copilote, des simulateurs, 1000 heures avant qu'on aille confiance à les laisser piloter. Et je pense que pour n'importe quel métier, n'importe quel sport, n'importe quelle passion, il faut se dire qu'il faut faire beaucoup de volume avant que ça commence à prendre forme. Alors oui, j'écris beaucoup, j'écris très rapide, dans des très mauvaises conditions, avec 5 enfants à la maison, j'y arrive à écrire. Et c'est très bien, mais c'est normal qu'on doit écrire beaucoup pour arriver à quelque chose qu'on trouve convenable.
Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?
Ça, c'est un peu pareil. Hein. Ça dépend qu'est-ce qu'on considère un livre. Alors, moi, il y a eu des moments idéaux hein, dans lesquels j'ai pu vraiment m'investir à l'écriture. Et à la naissance de ma deuxième fille, j'ai travaillé à la maison. Et il y avait un concours de littérature qui m'intéressait. C'était des romans courts. Un roman court, c'est, en Espagne, c'est 20 000 mots. Alors, ça fait un roman, on va dire, de 80, 100 pages, une fois édité. Et là, j'ai écrit un livre dans un week-end qui a très bien marché. Et après, il a été publié pour une autre maison d'édition. Il n'a pas gagné le prix, mais il était très content du résultat. Mais là, c'était rare. Il passait 48 heures qu'à écrire tranquillement dans ma boule avec les gamins autour. C'était super. Alors, ça fait un rythme de production considérable. Après, bien sûr, il faut relire, il faut réécrire et tout. Ça rajoute le temps d'écriture. Mais là, en moyenne, un jour un peu bête, qu'on a des autres trucs à faire, il arrive à écrire 1000 mots. Alors 1000 mots, c'est pas énorme. Un roman, ça fait 45 000 mots, 50 000 mots, un roman un peu convenable. Alors, ouais, quand j'ai un boulot à côté, je peux écrire un roman en 12 mois. Mais après, ça dépend de l'inspiration, du temps, la fatigue, si on perd le fil, s'il faut recommencer, s'il faut relire. Alors, il y a aussi des livres que j'ai démarré il y a 7-8 ans et sont encore à moitié. Et un jour, je les finirai peut-être. Mais comme il faut relire et aller en arrière, ça met plus de temps.
De quand date vos premiers livres ?
Alors, inachevé, la première chose que j'ai commencé à écrire, hein, qui n'est pas fini, et je ne finirai jamais, il y avait 10 ans. J'ai commencé à écrire à 10 ans, écrivait à la main, alors c'était beaucoup plus long. Et honnêtement, c'était trop naïf l'histoire, ça ne sera pas fin. Et le premier livre que j'ai fini, il avait démarré quand j'étais au lycée. Et il est fini à 18 ans, quand j'étais à peine rentré à l'université. Et ça a été publié, enfin, en maison d'édition de Barcelone. Il a été publié en format digital. C'était un livre un peu innocent aussi, mais c'était sympa. C'est une histoire de fantasy, des vikings et tout. Et, ouais, il est mignon comme livre, ça se lit. Hein, c'est... Mais voilà, c'est... Parfois, j'aime ce que c'est un peu dangereux de publier trop tôt, parce qu'on a l'impression qu'on a déjà réussi. Et c'est un peu comme les arts martiaux. Quand tu as ta ceinture noire, c'est le début du chemin. Il faut se dire, OK, il a fait un roman, à partir de là, il faut aller plus loin. Mais oui, si on veut dire la date, oui, il y avait 17 ans, il était très jeune.
D'où vient votre inspiration pour écrire des livres ?
Alors, l'inspiration, elle est partout. Et ça, c'est un avantage, c'est aussi un inconvénient. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'écrirais jamais toutes les histoires que j'ai dans la tête. C'est pas possible. Il y a trop de stimuli partout. Et c'est super intéressant aussi parce que la littérature, il nous permet de retransformer notre réalité et la digérer d'une façon différente. Alors, pour exemple, en ce moment, j'ai très envie d'écrire un roman policier avec des crimes qui se passent à Saint-François d'Assise. En prenant des personnages réels, réels, inspirés sur des profs réels. Alors voilà, personne penserait que Madame Rousnier, qui est un psychopathe, et il commence à disparaître des élèves qui vont prendre des mangas. Après, je sais pas, on peut sortir un truc vachement intéressant là. Et je pense que la littérature, elle doit parler au lecteur. Et il y a un truc qui me tracasse énormément, c'est que les nouvelles générations n'ont pas beaucoup de lecteurs. On part en voyage scolaire et dans tout le bus, il peut y avoir 2-3 élèves avec un bouquin pendant un trajet de 25 heures à Londres. Et moi, ça me rend triste. Même entre les collègues, hein, même entre les profs, il n'y a pas beaucoup de profs qui bouquinent, pas beaucoup, la moitié. Et moi, c'est quelque chose qui est viscéral. Moi, j'ai grandi avec les histoires, je n'ai jamais trouvé un film qui me parle autant qu'un roman. Et je pense que là, il y a un truc que vous perdez et ça me perturbe. Et c'est pour ça qu'en ce moment, l'inspiration, ça me vient surtout de ce côté-là. Bien sûr, avec le penchant horreur, parce que moi, j'adore l'horreur. Je pense que c'est un langage super intéressant pour parler de nous-mêmes. Parce que les trucs qui nous font peur, c'est les trucs importants. C'est la perte de quelqu'un, c'est avoir mal, c'est pas être compris, c'est être perdu. Et moi, c'est un langage qui m'attire beaucoup, en particulier à travers la métaphore des monstres.
En quelle langue écrivez-vous vos livres ?
Je pense qu'à ce niveau de la journée, vous avez bien compris que je suis un peu kamikaze. Alors, bien évidemment, j'écris à la base en espagnol. C'est ma langue maternelle et pour écrire bien, il faut une vraie maîtrise de la langue. Il faut aimer la langue, il faut avoir la sonorité, les textures, et combiner les phrases, il arrivait à faire ton rythme. Emilio Boeso, l'écrivain de qui j'ai parlé avant, il disait tous les bons écrivains devaient faire la poésie. Parce que c'est la poésie qui nous permet vraiment de jouer avec les mots, jouer avec les sonorités et tout. Mais comme je suis un peu kamikaze, j'ai essayé d'écrire en anglais, avec des résultats plutôt convenables, en français, avec des résultats catastrophiques. Et le français, c'est une langue très très compliquée, très très complexe. Alors il faut vraiment que vous ne vous sentez pas coupable de ne pas la maîtriser. Ce n'est pas votre faute. C'est une langue très élitiste, c'est très difficile à travailler. Alors il faut insister, parce que c'est aussi une langue très riche, c'est très intéressant. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte qu'on ne la maîtrise pas. Il faut s'acharner, il faut continuer. Et j'ai aussi écrit un peu dans la langue minoritaire de ma région, la fable aragonesa. Mais vu qu'il y a 12 000 personnes qui la parlent, c'est plus pour le plaisir qu'autre.
Réalisez-vous vos illustrations?
Pas pour l'instant, mais aussi dans ma ligne kamikaze. Mon projet pour les vacances là, de Pâques, c'est me remettre à dessiner, parce que j'adore dessiner. Les élèves qui m'ont vu en classe, ils voient que je dessine beaucoup dans le tableau, même pendant les examens. J'adore, c'est une façon de s'exprimer super sympa, et je voudrais bien. Mais pour l'instant, j'ai pas le niveau. Il me manque quelques milliers, quelques centaines d'heures de vol.
Combien d'exemplaires de vos livres avez-vous vendus?
Pas beaucoup. Alors, on ne fait pas la littérature pour devenir riche. Ça va vous déprimer. Alors, mon best-seller, le livre qui est beaucoup plus vendu de tout ce qui est publié, c'est une petite maison d'édition. Elle a vendu autour de 600 exemplaires. Et c'était le livre le plus vendu de la maison d'édition pendant tout l'été. Alors, c'était, on va dire, un grand succès. Et après, la maison d'édition, elle a fait faillite. Ils ne m'ont jamais payé les droits d'auteur. Mais il y a encore cette fierté. Voilà, c'était le livre le plus vendu.
Quel type de jeu avez-vous conçu?
Oui, on n'avait pas parlé encore de ça. Et j'ai fait aussi quelques jeux. Alors, j'ai fait un jeu de rôle qui s'appelle Gatos Nocturnos qui a gagné un prix en Espagne. J'étais très fier de ça. Et après, mon autre grand réussite dans la côté ludique, ça a été un jeu de cartes qui s'appelle Metal Mania. C'est autour de la musique heavy metal. Parce que la musique, c'est un de mes grands passions. Je suis nul en tant que musicien, mais j'adore écouter la musique. Et alors ça, par contre, c'est un jeu qui a très bien marché. Je pense qu'il est mieux que mes romans, parce qu'il a beaucoup de passionnés de heavy metal. C'est un jeu très sympa.
Combien de jeux avez-vous créé?
Ah, oula, publié, pas énormément. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. J'ai fait pas mal de prototypes, j'ai fait pas mal de jeux de rôle. Et ça circulait un peu, j'ai publié quelques-uns en Internet, libre diffusion. C'est comment on appelle ça? Creative Commons, parce que moi je trouve que jouer c'est une question de partager et on aime bien partager les jeux et je pense que c'est une activité super intéressante. Là il y a 12 jours il est mort le créateur du jeu société Catan et moi ça m'a fait vraiment du mal parce que c'était quelqu'un relativement jeune, il avait encore 70 ans et c'est un jeu société qui a fait heureux à plein de monde et que ça a fait développer l'intelligence, la communication, le travail ensemble. Je trouve que les jeux société, les jeux en général, jeux vidéo, jeux de rôle, peu importe, c'est très positif pour la société, pour les personnes.
Quel est votre jeu préféré, favori?
Ça, c'est compliqué. Alors, je pense qu'en ce moment, celui que j'aime le plus, ce serait l'Arkham Horror. C'est un jeu collaboratif autour de la mythologie de l'écrivain H.P. Lovecraft, c'est-à-dire de l'horreur cosmique. Et basiquement, chaque joueur il a un investigateur, on est dans la ville d'Arkham, et il va arriver un monstre d'une autre dimension qui va détruire le monde. Et alors il faut faire une petite investigation avec tes collègues autour de la table, il faut trouver des pistes, il faut trouver des objets magiques, il faut trouver des armes pour affronter à cette créature au-delà de la compréhension humaine qui va nous bouffer à tous comme des petits hamburgers. Et alors, c'est un jeu que c'est très stimulant parce que tu travailles avec les autres personnes, il a toute la tension de l'horreur, il faut se cacher des monstres, aller visiter des maisons hantées et tout. Et c'est très très sympa, très très narratif.
Nous remercions M. Laguna d'avoir répondu à nos questions au studio de Infor C. C'était les élèves de 4e CS de Saint-François-d'Assise.
Merci beaucoup à vous, c'était un énorme plaisir.
Nous pouvons retrouver ces livres au tiers-temps. et ses jeux sur Internet.